Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce début d'année, l'Église nous offre comme méditation un nom, un prénom, qui signifie absolument tout, Jésus. Lorsque il y eut l'Annonciation à Notre-Dame, l'ange Gabriel lui dit que cet enfant qu'elle porterait, qu'elle porte déjà depuis le Fiat, s'appelle Jésus. Quelque temps plus tard, il y aura une deuxième annonciation, en quelque sorte. C'est celle que l'ange Gabriel, de nouveau, fait à Joseph, qui, bien évidemment, ne comprend pas le mystère opéré en la Vierge Marie, son épouse, l'Immaculée. Et l'ange Gabriel va redire pratiquement les mêmes mots qu'il a prononcés à Notre-Dame, avec une différence. Il lui dit « Ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, car ce qui est en elle est l'œuvre du Saint-Esprit est saint. » Et l'ange Gabriel dit à saint Joseph que cet enfant que la Vierge Marie porte en elle, il l'appellera Jésus, Sauveur. Sauveur. Bien plus tard, relativement parlant, à Noël, les bergers entendent les anges qui appellent à venir à la grotte de Bethléem. Et nos belles crèches nous rappellent cet événement capital dans l'œuvre du salut. Que disent les anges aux bergers? Ils ne disent pas Jésus, mais ils leur disent « Un sauveur vous est né ». Vous voyez ce déroulé, la Vierge Marie, Saint Joseph, les anges, les bergers, pardon, qui reçoivent une révélation et pour chacun quelque chose qui précise ce nom de Jésus. Notre-Dame sait bien que Jésus est le Sauveur. Elle le connaît depuis son enfance. Elle connaît les Saintes Écritures. Et lorsqu'elle dit « Fiat », elle sait parfaitement à quoi elle s'engage. Plus qu'elle s'attend, elle s'engage. C'est le Sauveur. Elle connaît toutes les Écritures. Et ce « Fiat » est motivé. Non seulement dans l'acceptation d'un enfant qui va naître, mais d'un enfant qui vient nous sauver. Elle le sait parfaitement, elle connaît les Écritures. Pour Joseph, il connaît les Écritures, mais moins parfaitement que Notre-Dame. Alors l'ange précise, le Sauveur, Jésus, Sauveur. Et pour les bergers, Jésus vient sauver les âmes. Et les premiers qui bénéficieront de ce salut, ce sont les bergers qui accourent à la grotte de Bethléem, bienheureux bergers qui ont accepté l'invitation pressante, mais libre, car tout appel est libre, on peut refuser cet appel. Plus tard, en quelque sorte également, Hérode aura cet appel. Il sait où est l'enfant. Il enverra les mages avec un grand mensonge. Allez présenter vos hommages et quand vous serez revenus, quand vous aurez présenté vos hommages, etc., vous pourrez revenir pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais c'est un leurre, car Hérode ne veut pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien au contraire, il veut le supprimer. Nous avons fêté récemment les saints innocents qui meurent pour notre Seigneur Jésus-Christ, à sa place. Et Jésus sauve ces innocents, car les innocents ont eu la révélation de la raison pour laquelle et pour qui ils mouraient, pour notre Seigneur Jésus-Christ, à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus les a rachetés. Ils sont morts martyrs. Il n'y a pas d'impasse. Nous sommes tous guéris, sauvés, rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons d'entendre l'épître tirée des Actes des apôtres. C'est peu de temps après la Pentecôte. Les apôtres, Pierre et Jean, vont au temple pour prier. Et voilà qu'un homme, infirme, de naissance, boiteux, quête pour sa subsistance. Il ne peut pas travailler. Donc il mendie. Et Pierre et Jean le regardent dans les yeux. C'est important, les yeux. L'âme est au fond des yeux. Il voit cet homme qui supplie, qui mendie. Et Pierre, le regardant dans les yeux, lui dit, on n'a pas d'argent. Mais on a bien plus que de l'argent. On a le nom qui peut te sauver. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et tout de suite, sans transition, cet homme qui était infirme va se lever, marcher, danser dans le temple. Et les apôtres, par la suite, seront arrêtés par les princes des prêtres. Mais qu'avez-vous fait là? En plus, c'est un sabbat que vous avez guéri cet homme infirme de naissance. C'est interdit de guérir le sabbat. Quelle hypocrisie! Et donc, les apôtres seront mis en prison, seront relâchés par la suite. Et l'ordre qu'il leur est donné, c'est « taisez-vous, ne parlez pas de Jésus ». Les apôtres, avec fierté et beaucoup d'humilité, parce que ce n'est pas eux qui ont guéri l'infirme, mais c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique sauveur, l'unique rédempteur. Il vient pour cela. Jésus signifie « sauveur », mes bien chers frères. Et dans tout l'Évangile, dans les Épîtres, dans les Actes des Apôtres, dans les Écrits des Saints, ce nom de Jésus revient tout le temps, tout le temps. Parce que, en disant Jésus, on appelle à l'aide. Les psaumes le disent à l'envi. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Notre secours dans le nom du Seigneur. Seigneur, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. Le nom du Seigneur est partout, il est partout. Pour vous éviter de faire une recherche dans les Saintes Écritures, eh bien, je vous donne le nombre de fois où dans les Évangiles, le nom de Jésus paraît. Écoutez bien. 572 fois. Vous retiendrez 572 fois dans les évangiles. Et c'est Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, qui le nomme le plus souvent, 250 fois. C'est dire si ce nom est important. Il n'est pas mis sous le boisseau, comme entre parenthèses. Il est si important qu'il faut le dire, le répéter, le clamer, le crier partout. Jésus, Sauveur. Et Saint Paul, qui a prêché le nom de Jésus à temps et à contre-temps, dans l'épître Philippiens, que dit-il? Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et l'âme doit adorer le Verbe de Dieu fait chair. Tout genou doit fléchir. Il précise, au ciel, sur terre et dans les enfers. Vous voyez, même en enfer, les démons tremblent au nom de Jésus. Sans doute, ils n'adorent pas le nom de Jésus. Ils haïssent ce nom de Jésus. Il n'empêche que ils doivent le respecter. Ils doivent le respecter. Il n'y a rien à faire. Ce nom de Jésus n'est pas une parenthèse. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas aller au ciel sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Sauveur. L'unique sauveur. Quelle leçon pour nos contemporains qui ont perdu la tête et perdant leur tête, perdant leur cœur aussi, leur âme, leur volonté, avec ce faux œcuménisme où on peut se sauver dans n'importe quelle religion. Peut-être Jésus est le meilleur, mais il n'est pas l'unique. Oui, Jésus est le meilleur et l'unique. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. C'est important d'en être convaincu, nous le sommes. Mais prions aussi pour toutes ces âmes qui sont dévoyées par des fausses doctrines et qui finalement relativisent. On peut se sauver dans n'importe quelle religion, sous n'importe quel nom. Non, c'est impossible. Seul le nom de Jésus nous conduit à son Père. Et c'est Notre-Dame qui a mis au monde Jésus, le Sauveur. Notre-Dame, le nom de Notre-Dame, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sont intimement liés. On fête aussi le nom de la Vierge Marie, le 12 septembre, le Saint-Nom de Marie. Et aujourd'hui, le Saint-Nom de Jésus. La mission de l'Église est d'annoncer, de prêcher, de proclamer à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, le nom de Jésus, l'unique nom par lequel nous sommes sauvés. Le futur saint Paul, qui n'est pas encore Paul, qui est Saul, est terrassé. Il va persécuter les chrétiens, il les enchaîne. De Jérusalem, il va à Damas, en Syrie, au nord de la Palestine. Et là, sur ce chemin, il est terrassé, il tombe de cheval. Qui êtes-vous, Seigneur ? Ah, il sait que ce n'est pas une chute anodine, normale. C'est un bon cavalier, saint Paul. Mais il tombe. Qui êtes-vous, Seigneur ? Alors qu'il n'a vu personne. Qui êtes-vous, Seigneur ? Et la voix lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et pourtant, Saul n'a jamais vu Jésus. Mais il persécute les amis de Jésus, les chrétiens. Et donc, en persécutant ces chrétiens, baptisés, fidèles, confirmés par les apôtres, il persécute Jésus. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et immédiatement, Saul sera aveugle pendant 3 jours. Que fera-t-il durant ces 3 jours ? Il va pleurer. Il va prier. Et au bout de 3 jours, la vue lui sera rendue. Il le dira comme des écailles qui tombent de ses yeux, comme des écailles. Ce n'est pas que symbolique cette cécité. Il ne voit plus rien. Il faut qu'il fasse marche arrière sur une vie de péché. Il persécutait les chrétiens avec un zèle méchant, pervers. Il en voulait à mort à la vie de Jésus. Il avait participé à la persécution de son cousin, saint Étienne. Vous n'ignorez pas que Paul et Étienne, son cousin, qui ont été élevés, éduqués chez Gamaliel, un des meilleurs rabbins de Jérusalem, Gamaliel, qui ne prend pas part à la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, il défend notre Seigneur Jésus-Christ, dans les premiers temps de l'Église, c'est dans les Actes des Apôtres. Eh bien, ce Saul qui avait participé à la lapidation de saint Étienne, non pas qu'il l'ait lapidé, mais il tenait les habits de ceux qui lapidaient. Et cet acte était religieux. En effet, pour lapider quelqu'un, il faut être un peu libre de ses mouvements. Donc on enlève le manteau qui embarrasse. Et donc il tenait les manteaux des lapidateurs. Donc il a participé activement à cette lapidation, même s'il n'a pas lapidé, effectivement, son cousin. Et saint Étienne, en mourant, que fait-il ? Il voit beaucoup de choses. Reportez-vous à l'épître, les Actes des Apôtres, du 26 décembre, c'est tout près encore, la semaine dernière, il y a 15 jours. Eh bien, Étienne voit les cieux ouverts, la gloire de Dieu et Jésus à la droite du Père. Il voit Jésus. Et en mourant, il va répéter une phrase que Jésus a prononcée sur la croix. « Seigneur, pardonnez-leur. Pardonnez-leur. » Et ce pardon a été efficace pour au moins Saul. Le pardon de Étienne pour son cousin. Et pourtant, Saul continue à persécuter un certain temps. Mais voyez-vous, si la puissance de la prière est importante, il a mérité, au nom de Jésus, la conversion future de saint Paul. Comme c'est encourageant. Comme c'est encourageant. Nous ne désespérons pas du salut des hommes. Prions pour eux. Prions pour eux. Sacrifions-nous pour eux. Et tôt ou tard, par le nom de Jésus, ils seront sanctifiés. Ils seront rachetés. Ils le sont déjà rachetés, mais par la croix, parce que Jésus est mort pour tous. Mais tous ne veulent pas du salut de Jésus. Donc il y a un acte de volonté, un acte généreux. Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Voilà le début de la conversion de Saul. Que voulez-vous que je fasse ? Il aurait pu se révolter contre cette chute néfaste. Que voulez-vous que Jésus ? Que voulez-vous que je fasse ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous que je fasse ? D'abord, savoir qui est Jésus. Et ensuite, que voulez-vous que je fasse ? Il y a deux questions chez Saul qui est par terre, atterré, renversé. Eh bien, chers frères, aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment le connaître ? Lisons les évangiles. Puisons dans les évangiles notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Car il ne s'agit pas simplement de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Encore faut-il l'aimer, le prier avec foi, avec charité, en espérant tout de lui. Vous pourrez, et le sermon serait trop long, vous pourrez voir, vous pourrez les prier si vous voulez, dans la journée. Peut-être que vous ne l'avez pas dans vos missels, mais il y a de belles litanies de Saint-Nom de Jésus. Dans le livre bleu, elles y sont, ces litanies de Saint-Jean de Jésus. Elles sont magnifiques. Le nom de Jésus nous sauve, nous guérit. Saint-Bernard, qui a chanté Notre-Dame, chante aujourd'hui le nom de Jésus. Dans les matines de la fête du Saint-Nom de Jésus, tout est de Saint-Bernard. Saint-Bernard est un dévot, un amoureux de la Vierge Marie et de Jésus. Il dit ceci, que le nom de Jésus est un baume salutaire, car nous sommes des malades. Et sur un malade, on met un onguent, un baume qui purifie, qui guérit. Et en plus, le baume est suave. Rappelez-vous, quand vous assistez à un baptême ou à la confirmation, le prêtre au baptême, le pontife à la confirmation, met le Saint-Crème qui est fait de l'huile d'olive et du baume. Comme ça sent bon, le baume, c'est odoriférant. Et ce baume est le symbole des vertus chrétiennes qui sentent bon, qui se répandent au dehors de la personne qui le possède. C'est un baume salutaire. Le nom de Jésus est un baume. Jésus est la splendeur du Père. À Philippe, l'apôtre Philippe, notre Seigneur Jésus-Christ dira : mais qui me voit, voit le Père. Jésus est doux et humble de cœur. Dans la litanie, on dit cela : doux et humble de cœur. Cela reprend le sermon sur la montagne, n'est-ce pas ? Notre Seigneur, bon pasteur, qui soigne ses brebis, qui prend soin d'eux, d'elles, qui les soigne, qui les guérit, qui les instruit. Prions notre Seigneur Jésus-Christ, bien chers frères, en ce début d'année, pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit du matin au soir même durant la nuit, quand nous nous réveillons, le nom qui revient à nos lèvres, à nos esprits, à notre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Salve Regina, et je termine par cette petite prière du Salve Regina, nous récitons ceci, nous prions Notre-Dame en lui disant, au terme de notre exil, montrez-nous Jésus, le fruit de vos entrailles. Montrez-nous Jésus, montrez-nous-le, donnez-nous-le. Et ce Jésus, nous le recevons aussi, bien sûr, dans la Sainte Communion, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.